Et que nous restions dans cette présence de Dieu. Quand nous sommes en louange, nous sommes en prière. Comme nous sommes en louange, nous sommes en prière et c'est comme si, si je peux dire, nous autorisions le Seigneur à agir dans nos cœurs. Il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit. On met en œuvre notre foi. Et ça change des choses dans notre cœur et dans notre vie. On met du temps à part pour Dieu. Et on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Amen. Alors ce matin, les enfants sont avec nous, a priori. Mais je ne vois pas beaucoup d'enfants. Les ados sont avec nous, en tout cas. Bon. Alors, je vais commencer par prier. Seigneur, je te remets ce moment. Nous avons voulu préparer nos cœurs aussi à recevoir ta parole. Et Seigneur, oui, que ta parole puisse agir dans nos cœurs et éclairer notre intelligence. Tu sais, chacun là où nous avons besoin de toi, nous avons tous besoin de toi. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire à présent, Seigneur. Amen. Je vais commencer par un petit témoignage ou un petit moment de. Je vais vous parler de notre intimité avec Estelle. Oh, vous inquiétez pas. C'est un matin, il est 7 heures, je suis déjà debout depuis un certain temps. Et Estelle dort toujours, mais elle doit se lever. Alors je viens la réveiller. Coucou, ma chérie, c'est l'heure. Et là, voilà, elle commence à ouvrir un œil. Ma chérie, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es à, poste ou pré ? Hein, quoi ? Oui, est-ce que tu es à, poste ou pré-millénariste ? Ah. Qu'est-ce qu'il voudrait que je vienne le réveiller tôt un matin avec cette question ? Non ? Personne ? Il n'y a pas d'amateur. Ah, bizarre. Et là, la réponse d'Estelle est « Écoute, tu m'en parles depuis le début de tes études, je m'en fiche, j'y comprends rien de toute façon et on verra bien. » Il est question du millénium. Et je me suis dit, je me demande si ce ne serait pas la réponse de pas mal de chrétiens. Mais nous parlons du retour de Christ et on ne peut pas parler du retour de Christ sans parler du millénium. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que le millénium ? Apocalypse 20, voilà. Tout à fait. Il y en a qui connaissent. Qu'est-ce que le millénium ? Et finalement, en quoi est-ce important ? Parce que voilà, on l'a entendu hein, dans l'exemple que je vous ai donné, bah, voilà, peut-être certains, voilà, comme on n'y comprend rien, bon, on préfère ne pas forcément, on n'a pas forcément envie de s'attarder dessus. Qu'est-ce que le millénium ? Effectivement, le millénium, on en entend parler dans Apocalypse 20. C'est là qu'il est clairement question du millénium et nous allons lire ensemble Apocalypse 20, cette vision que Jean a eue des derniers temps et de tout ce qui va se passer à partir du moment où Jésus revient et avant le retour de Jésus et à partir du retour de Jésus et après le retour de Jésus jusque dans l'éternité. Et voilà ce que nous dit Apocalypse 20. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors qu'est-ce que le millénium ? On pourrait le définir comme ça, le millénium. Il en est question dans ce passage. C'est effectivement ce terme de 1000 ans qu'on a traduit par millénium et qui est un âge intermédiaire, en tout cas une période de temps, entre l'âge présent et l'éternité, où Christ commence à régner, bien que le mal soit toujours présent. Pour certains, c'est une période de 1000 ans, et pour d'autres, c'est une longue période indéfinie, mais une longue période. Et force est de constater que sur cette histoire de millénium, tous ne sont pas d'accord parmi les chrétiens, évangéliques en particulier, qu'il y a différents courants de pensée, différentes compréhensions qui se sont développées. Et pourquoi ? Finalement, en quoi est-ce important de parler de cela ? Pourquoi est-ce que Dieu en parle ? Surtout, pourquoi est-ce qu'il en parle alors que ça divise ? Et peut-être, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin ? Qu'est-ce qu'il veut dire à l'Église au travers de cela ? Qu'est-ce qu'il veut te dire à toi au travers de cela ? Parce que c'est dans sa parole. Et toute sa parole nous concerne, toute sa parole te concerne. Alors qu'est-ce qu'il veut te dire ? Même si ça peut être peut-être certaines choses compliquées à comprendre. En quoi est-ce que c'est important ? Je vais d'abord parler des différentes conceptions qu'il y a là-dessus, pour ensuite répondre à cette question. En quoi c'est important et surtout, qu'est-ce que Dieu veut dire ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Alors, parmi les différentes positions, il y a, alors je m'excuse, je vais dire des gros mots. Mais rassurez-vous. Il y a ceux qui croient qu'il n'y aura pas de millénium. C'est ce qu'on appelle les amillénaristes. Vous pouvez répéter après moi ? Ouais, ça marche. Hein. Prétribulationnistes. Ah, c'est bien. Bref, ça, j'en parle pas aujourd'hui. Il y a ceux qui croient qu'il n'y a pas de millénium. C'est ceux qu'on appelle les amillénaristes. C'est-à-dire que, pour eux, Apocalypse 20, c'est pour maintenant. On est en train de le vivre. Ce passage-là que j'ai lu, on est en train de le vivre. C'est-à-dire que Christ règne au travers des chrétiens, même s'il n'est pas revenu, mais Satan a déjà été ligoté. Satan a été ligoté, et c'est ce qui permet... C'est ce qui a permis que l'évangile soit annoncé. Donc, voilà, c'est l'âge présent, il n'y a pas de millénium à venir. On vit l'âge de l'Église jusqu'à ce que Jésus revienne. Et au moment où Jésus revient, tout ce qui est annoncé dans la parole par rapport aux événements qui doivent se passer en lien avec son retour, se passe tous en même temps. Les croyants ressuscitent en même temps que les incroyants. Il y a le jugement et la terre et les cieux sont renouvelés. Tout ça, ça se passe en même temps. Et hop, tout de suite, on est dans l'éternité. Donc il n'y a pas d'âge intermédiaire. Il y a ceux qui croient qu'il y aura un millénium avant le retour de Christ. C'est ceux qu'on appelle les post-millénaristes, parce que Christ revient après le millénium. Donc en fait, le millénium, il est dans la continuité de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne le vivons pas aujourd'hui, mais pour eux, pour ceux qui sont post-millénaristes, plus ça va aller, plus l'évangile va gagner en puissance, plus il va y avoir un impact sur la société et ça va changer les structures de la société, ça va changer les mentalités, même si Jésus n'est pas encore revenu. Il y aura de plus en plus de chrétiens et le mal va décroître. Voilà. Et souvent, le post-millénarisme, c'est plus populaire dans les moments de réveil, dans les moments où il y a un triomphe sur le mal dans la société, où on voit que effectivement, le mal décroît. Donc voilà pour les post-millénaristes. Et enfin, il y a ceux qui croient qu'il y aura un millénium à partir du retour de Jésus. Et c'est ceux qu'on appelle les pré-millénaristes. Donc effectivement, nous vivons l'âge de l'Église. C'est l'âge présent dans lequel nous sommes. Et à un moment donné, quand les signes vont s'accomplir, Christ revient, il enlève les croyants, tous les croyants en Christ sont enlevés avec lui dans les cieux, et ils redescendent avec Christ pour régner avec lui. Au moment où ils sont enlevés, c'est là qu'ils ressuscitent. Pour certains, c'est là que la terre est renouvelée, pas pour d'autres. Bref, c'est là qu'ils ressuscitent, et là, quand ils reviennent avec Jésus, c'est là que le millénium est vécu. Cet âge intermédiaire où Christ règne, mais Satan donc, est ligoté. Il ne peut plus séduire les nations, il ne peut plus nous séduire, mais il y a toujours le péché qui est dans le cœur de l'homme. Et donc le mal est toujours quand même là, même si Christ règne. Jusqu'à ce qu'il y ait le moment de la résurrection, jusqu'à ce que ce millénium s'arrête. Là, Satan qui avait été ligoté est relâché et tous ceux finalement qui s'étaient soumis, on va dire involontairement, mais qui gardaient une révolte dans leur cœur, qui restaient dans le péché, là vont se révolter ouvertement, vont s'associer à Satan et va y avoir ce qu'on appelle l'Armageddon. Il n'est pas question dans ce passage que je vous ai lu, mais va y avoir une bataille finale dans laquelle Christ va finir d'établir son règne. Et là, c'est la victoire définitive sur le mal. Satan est jeté dans l'étang de feu. Donc, il n'y a plus Satan. Il n'y a plus le péché. On entre dans l'éternité. Et où c'est un moment de plénitude. Et de paix. Et de joie. Et il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de tristesse. Il n'y a plus de péché. Donc, voilà. Les différentes... Alors, je ne rentre pas dans les détails, j'en parlerai plus tard par rapport à ce qu'on appelle la grande tribulation, parce qu'il y a encore des variantes au niveau de ceux qui croient qu'il y aura un millénium, mais je vous en fais grâce, aujourd'hui en tout cas. Et au fond, qui a raison? Qui a raison entre les trois? Qui sont pour les prêts? Qui sont pour les A? Qui sont pour les postes? Au fond, est-ce que c'est cela qui est important? Je pourrais prendre le temps de vous expliquer les différents arguments des uns et des autres, les différentes objections des uns et des autres. Moi-même, j'ai ma position. Effectivement, moi, je crois qu'il y aura un millénium. Parce que voilà, pour moi, la parole, je la prends comme ça et telle qu'elle est. C'est aussi mon approche de la parole. Mais voilà, mais peut-être que les uns et les autres, s'ils croient comme ça, c'est aussi qu'il y a des choses qu'on en a à entendre, qu'ils ont à nous dire. Donc, ce n'est pas ici le lieu, là, c'est une prédication, ce n'est pas le lieu d'un débat théologique. C'est pour ça que je ne vais pas venir là-dessus. Mais par contre, s'il y en a parmi vous qui auraient à cœur que l'on se penche là-dessus, qu'on passe le temps d'une soirée pour revenir sur tous ces arguments, toutes ces objections, parce que voilà, vous avez besoin aussi de vous faire votre avis, vous avez besoin de comprendre mieux aussi par rapport à la parole, vous venez me voir, vous me le dites. Et on prendra le temps d'une soirée pour faire cela. Mais par contre, il faut me le dire, parce que si personne ne me dit rien, je ne ferai rien. Mais voilà, là nous sommes effectivement dans une prédication. Et dans une prédication, ce que l'on se demande, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut nous dire au travers de ce passage, même si je ne comprends pas? Essayez de comprendre ce que Dieu veut dire, essayer de comprendre sa parole plutôt, c'est essayer de le comprendre. En toute humilité, bien sûr, il y a des choses qui nous échappent. Mais du coup, c'est faire en sorte de rester proche de sa pensée. C'est ce qu'on va essayer de faire au travers de ce que je vais vous proposer, de ce que moi, après avoir médité ce texte, après avoir médité sur prier, par rapport à tout cela, les choses qui me sont venues. Donc pourquoi est-ce que Dieu nous en parle et pourquoi finalement il y a différents types de pensées? Pourquoi il y a différents avis? Parce que Dieu aussi veut parler, je crois, au travers de ça. Il veut parler au travers du fait qu'il y a différentes compréhensions. On va juste relire le texte ensemble. Pour bien, pour l'imprégner. Et on le lit aussi, en se mettant à disposition de ce que Dieu veut nous dire. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin, en tout temps, et aussi en particulier ce matin, avec le millénium? Moi je vais dire des choses que j'ai reçues, mais peut-être toi tu reçois aussi d'autres choses, parce que Dieu nous parle à chacun. Sa parole, elle est vivante, elle est infinie. Et il y a plein de choses que Dieu dit aux uns et aux autres, et tous ensemble. Je crois que Dieu dit que le mal est aussi dans le cœur de l'homme, car finalement, que le millénium soit déjà, on soit déjà en train de le vivre, bah, le mal, il est toujours là. Hein. Ou que ce soit cette période qui sera à partir du retour de Christ, bah, on voit que même si Satan est ligoté, même s'il ne peut plus séduire, il y a quand même le mal. Dieu est en train de nous dire que le mal est dans le cœur de l'homme. Que ce qui amène le mal, ce n'est pas seulement le diable, ce n'est pas seulement les ténèbres, ce n'est pas seulement les anges mauvais, ce n'est pas seulement les esprits mauvais. Ce qui amène le mal, c'est le péché qui est dans notre cœur. C'est le péché qui est dans le cœur de l'homme. On a tous des choses. On a tous des choses qui nous séparent de Dieu, qui nous ont séparés de Dieu, qui voudraient encore nous séparer de Dieu. Donc le mal, il est dans le cœur de l'homme. Et moi, en tant que personne qui croit qu'il y aura un millénium, je crois que du coup, à ce moment-là, l'homme se rendra compte. Il ne pourra plus dire « mais ouais, c'est pas de ma faute ». Non, il se rendra compte que vraiment, il y a quelque chose dans son cœur. C'est quelque part une bénédiction que Dieu fait de prévoir un âge. Donc là, je parle en tant que personne qui a une position. De prévoir un âge où finalement, voilà, on peut faire la différence entre Satan et le péché. Je crois que Dieu nous dit aussi que seul Christ peut vaincre le mal. Là, ce n'est pas l'Église qui ligote Satan. C'est un ange. C'est Jésus qui ligote Satan. C'est Dieu. C'est Jésus qui peut vaincre le mal. Il n'y a que Jésus qui peut vaincre le mal. Et c'est ce que nous dit aussi ce passage. Et c'est ce que Dieu veut nous dire à chacun. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui peux agir dans ta vie. Tout ce contre quoi tu combats, tous tes défis par rapport au mal, tout ce que tu voudrais éviter de faire et que tu n'arrives pas, tout ce pourquoi peut-être aussi tu te culpabilises ou tu t'accuses ou tu te laisses accuser, tu n'y peux rien si ce n'est de prendre ma main, de collaborer avec moi, si ce n'est de me laisser la place dans ta vie. Il n'y a que moi qui peux vaincre le mal. C'est ce que Dieu veut dire à toute l'humanité. Là où souvent on essaye par nos propres forces de changer cette société, de changer ce monde, mais il n'y a que Christ qui peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il n'y a que Christ qui peut. Et ça commence dans notre cœur. Et c'est ça dont on peut témoigner. Je crois que Dieu est ici en train de montrer au travers de ce passage qu'il est toujours un Dieu de grâce. Qu'il est toujours un Dieu de grâce qui se révèle progressivement. Il est un Dieu de grâce parce que on ne sait pas ce qui se passera dans cet âge. Il y a très peu de passages, parce qu'il y a d'autres passages quand même dans la parole qui en parlent. Mais j'ai dit que j'en parlerai pas. Mais il y a d'autres passages qui évoquent en tout cas un âge qui ne correspond pas à aujourd'hui et qui ne correspond pas à l'éternité. Un âge où Christ règne et où il y a toujours le mal. Et on voit, il est question de Jésus qui délivre les opprimés. Donc, dans quelle mesure, peut-être, il y a des gens, durant cet âge encore, même s'il y a eu la résurrection des croyants, qui se tourneront vers Dieu, ça, on ne sait pas, en fait. Ça, c'est dans... Voilà, les théologiens en parlent, mais ça, on ne sait pas. Mais on peut se poser juste la question. Voilà, on peut se poser la question, est-ce que des hommes, en voyant justement Dieu qui va changer la société, qui va régner en tant que Messie, qui va changer du coup les structures de la société, enfin l'homme va voir les desseins bienveillants de Dieu à l'œuvre, jusque dans les structures de la société, un monde qui fonctionne avec le règne de Jésus. Et donc, est-ce que tous vont rester rebelles? Est-ce que certains vont pouvoir peut-être se tourner vers Dieu? Mystère, ça c'est une question qu'on laisse. On a la question, on n'a pas la réponse. Et il y a beaucoup de choses comme ça. On a les questions, on n'a pas les réponses. Et finalement, Dieu s'est toujours révélé de manière progressive. Je crois aussi que c'est une expression de son cœur. Dieu, c'est quelqu'un qui vient nous rencontrer progressivement. Il fait des ponts, en fait. Jésus, c'est un pont. C'est un pont entre Dieu et l'homme. Et de la même manière, cet âge intermédiaire, moi, je trouve que c'est la manière de fonctionner de Dieu avec nous qui se révèle pas comme ça, mais qui s'adapte à nous. Qui s'adapte à nous, c'est une expression de son cœur. Il se révèle progressivement. Quand il était question du retour de Jésus dans l'Ancien Testament, du retour du Messie, on ne savait pas qu'il allait revenir comme il est venu il y a 2000 ans. On croyait qu'il allait revenir tout de suite en gloire. Et c'est pour ça que beaucoup ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas dit dans la parole. Ou en tout cas, on ne le voyait pas à ce moment-là. Aujourd'hui, quand on le sait, on peut aller voir des versets et dire « Ah ouais ». Mais ce n'était pas clair. Et Dieu se révèle progressivement. Pourquoi est-ce qu'il se révèle progressivement? Qu'est-ce qu'il veut te dire de lui dans sa manière de faire? Qu'est-ce qu'il veut te révéler de lui? Dieu, je crois, souhaite que, au travers de tout cela, nous mettions surtout l'accent sur la foi, sur l'espérance et l'amour. Sur la foi, parce qu'effectivement, nous ne comprenons pas tout et nous ne pouvons pas tout comprendre. Notre intelligence est limitée. Nous avons besoin de la foi. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Jésus. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. On essaye, on interprète. On essaye de comprendre avec nos esprits limités. Mais on a besoin de la foi. Et donc, finalement, d'écrire les choses comme ça, Dieu nous donne l'occasion d'exercer notre foi, notre confiance en lui. Dieu vient aussi mettre l'accent sur l'espérance. Parce que finalement, tout cela, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. On peut se dire, mais est-ce que telle chose là qui est en train de se passer, c'est un des signes qui sont écrits dans la parole, qui annoncent son retour? Mais on ne sait pas. On ne le voit pas. Et le millénium, on ne le voit pas. Ce règne de Christ, on ne le voit pas comme on voudrait le voir encore. En tout cas, pas autant. Il y a un moment, et Paul qui dit, si nous continuons, quand il parle d'espérance, si nous continuons d'espérer quelque chose que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons vivement, avec persévérance. Finalement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change la manière dont tu crois à ce passage-là d'Apocalypse 20, à sa parole? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ta foi? Qu'est-ce que ça change dans ta manière d'être avec Dieu? Qu'est-ce que ça change dans ce que Jésus y fait dans ta vie? Je crois que c'est ça qui est important. Dans quelle mesure tu es dans l'ardeur de l'attente de son retour? Est-ce que ces passages-là, et puis la manière dont tu les comprends, ça vient aviver la flamme en toi par rapport à Jésus. Et je crois que Dieu aussi veut que nous mettions l'accent sur l'amour au travers du fait que nous ne comprenons pas tout et nous pourrions nous étriper entre nous, et nous l'avons fait. Et je pense au témoignage d'une chrétienne d'origine juive qui me racontait qu'elle avait vu comment des juifs débattaient de la parole de Dieu, mais c'est d'une virulence. Ils ne sont pas en train de se taper dessus hein, physiquement, mais avec les mots, ils y vont. Hein. C'est des Moyen-Orientaux, hein. C'est pas des Occidentaux. Hein. Nous, on a peur. On a peur de se taper dessus, alors on préfère peut-être se taire, ou alors ça peut être des fois où ça a pu être assez violent. Mais voilà, ils n'ont pas peur. Vraiment, c'est virulent. Et puis, et tout le monde, au bout du débat, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. Et certains restent sur leur position, beaucoup plus. Peut-être d'autres, ils évoluent un petit peu. Et puis finalement, tout le monde finit au restaurant. Tout le monde finit au restaurant, en rigolant, en mangeant ensemble. Ce qui importe, c'est le corps. C'est ça qui est important. C'est l'unité. Dieu, je crois, au travers de passages comme ça, où nous ne comprenons pas tout, il nous donne l'occasion d'être en unité. Il nous donne l'occasion de choisir l'amour plutôt que « Ouais, c'est moi qui ai raison !» Où est-ce qu'on met le focus? Où est-ce que tu mets le focus? Et enfin, je crois que Dieu souhaite que nous restions, malgré tout, au travers de ces passages-là, et du fait qu'on ne saisit pas vraiment, il souhaite que nous restions attentifs à la venue, à sa venue, et au signe qu'il annonce. Effectivement, ces choses doivent se passer. On pourrait dire, ouais, bon, bah, ça doit se passer. Voilà, j'attends que ça se passe. J'attends que ça arrive, je verrai bien. Mais voilà, ça nous concerne tous, hein, parce que tous, à un moment, on peut se dire, ouais, ça fait 2000 ans que j'attends. Non, Dieu veut que nous restions attentifs à ces signes, à ces choses qui doivent s'accomplir, mais tout en restant engagé, tout en restant engagé. Et peut-être aussi c'est ce qui fait justement, je crois, la force de personnes qui ne croient pas au millénium. Pour eux, c'est important d'être engagé dans la société. Alors peut-être des fois d'une manière où ça serait plus l'homme qui vient changer les choses que Christ. Mais voilà, il y a au moins, on met l'accent sur le fait que le chrétien, il est là dans le monde, quoi. Il ne fait pas partie du monde, mais il est là dans le monde. Et le fait que ces signes ne se soient pas accomplis encore, a priori, quand même, c'est fort probable, ça n'enlève pas notre responsabilité. Ça n'enlève pas notre responsabilité d'être engagé avec Christ dans notre cœur. Je crois que Dieu nous dit tout cela, et sans doute plein d'autres choses encore. Peut-être, voilà, Dieu il vient te dire des choses, d'autres choses que je ne dis pas là. Finalement, je crois que je le formulerai comme ça, que le millénium, il me pose la question suivante. Dans quel équilibre vais-je pouvoir me retrouver par rapport à ce que le Seigneur il a déposé en moi et à ce qu'il attend de moi? Par rapport à tout ce qu'il dit là. Il a déposé des choses en chacun de nous. Il a déposé des choses pour que ça s'exprime dans l'attente de son retour. Comment est-ce que je me mets à son écoute? Comment tu te mets à son écoute et à l'écoute de toute sa parole? Comment tu considères tout ce qu'il dit, même les choses que l'on ne comprend pas? Qu'est-ce que, si je ne peux pas comprendre avec mon intelligence, qu'est-ce qu'au moins mon cœur vient me dire? Qu'est-ce que Dieu il me dit dans mon cœur avec tout cela? Qu'est-ce que ça change dans ma relation avec Jésus? Comment est-ce que je me centre sur Jésus-Christ? Jésus qui, lui, il ne savait pas tout. Il ne sait pas la date à laquelle il revient. Il y a seul le Père qui le sait. Et ça ne l'a pas empêché de nous montrer comment aimer vraiment, comment Dieu aime. Alors qu'est-ce que je fais de tout cela par rapport à ma relation avec Jésus ? On va prier. Oui, Seigneur, c'est en toute humilité que nous venons devant toi parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a tant de choses qui nous dépassent et pourtant tu nous en parles. Oui, Seigneur, aide-nous à considérer tout cela. Aide-nous à considérer tout cela avec notre cœur avant que ce soit avec notre tête. Aide-nous à considérer ce que toi tu veux, la parole vivante que tu veux mettre dans ma vie, ce que tu veux changer dans ma vie. Viens maintenant, Seigneur, viens changer dans ma vie ce que tu veux changer. Par rapport au fait que tu me dises « je viens bientôt ». Oui, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance et de croire que tout cela, c'est dans ta main, même si ça me dépasse. Seigneur, je veux rester centré sur toi. Et c'est la prière que je veux faire avec mes frères et sœurs ce matin, que nous restions centrés sur toi. Que ce soit toi notre focus. Que ce soit l'espérance que tu mets dans notre cœur. Et l'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espérance, c'est que nous avons cette certitude que tu reviens. Que tu mettes l'accent sur l'amour à l'intérieur de nous et entre nous. Que nous soyons vraiment, Seigneur, cette église, ce peuple qui témoigne de ton amour et qui peut dire, voilà, on n'est pas d'accord sur tout. On ne comprend pas tout pareil, mais nous nous aimons. Mais nous nous aimons parce que nous connaissons cet amour que Christ nous a montré. Et une sœur qui avait cette vision tout à l'heure pendant la louange de Jésus qui était sur la croix et Satan qui rigolait parce qu'il croyait qu'il avait gagné. Mais il ne savait pas que 3 jours après, Jésus allait ressusciter. C'est une sagesse que Dieu nous révèle les choses progressivement, que nous ne sachions pas tout. Nous ne savons pas pourquoi il le fait, il le sait pourquoi. Sa sagesse est infinie, faisons-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance pour ta vie, pour tout dans ta vie. S'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, fais-lui confiance. Lui, il sait. Prends-lui sa main. Nous allons, dans la continuité de cette prière, prendre le repas de la Sainte Cène. Merci aux personnes qui doivent distribuer de me rejoindre. Pour qu'on puisse se placer tous devant le Seigneur. Tout notre être. Vous pouvez briser le pain. Seigneur, je veux te remettre ce qui représente ton corps et ce qui représente ton sang. Je te remercie, Seigneur, pour toute ta personne. Tu nous as donné toute ta personne. Tu l'as fait dans une foi qui nous dépasse et qui pour nous est exemplaire. Et c'est une foi que tu nous fais partager, dans laquelle tu nous emmènes. C'est une foi qui ne nous est pas impossible. C'est une foi dans laquelle on peut cheminer parce que tu ouvres le chemin. Et nous sommes à ta suite. Je te remercie, Seigneur, maintenant de venir parler au cœur de chacun par rapport à tout ce qu'on a entendu, même si on ne comprend pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là, aujourd'hui, maintenant? Merci pour ta parole qui vient là, aujourd'hui, maintenant, qui va permettre aussi de prendre des décisions, des engagements, peut-être de demander pardon pour certaines choses, de se repentir, de dire, bon, là, maintenant j'arrête, je vais dans cette direction vers le Seigneur. On va vivre un temps comme ça où chacun se place devant le Seigneur.